Alors, je vous propose qu'on passe à l'intervention suivante. Donc, il nous reste deux interventions maintenant. Une intervention sur un premier pas vers la standardisation de la gestion de crise par M. Dare et Vellin de Ernst & Young. Et on aura un retour d'expérience sur le bassin de l'Elbe en Allemagne. Et si on a le temps avant de manger, on passera la vidéo qui dure, je crois, 10 minutes. Qui a été envoyé par M. Sébastien Maire de la ville de Paris.
Oui, c'est bon. Vous êtes prêts? Alors.
Donc, je propose donc de donner la parole à M. Dare et Vellin, voilà, de présenter peut-être Esk et Ernst & Young, très, très rapidement, peut-être. Voilà. Et la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Bastien Dare. Donc, je travaille au sein du cabinet d'audit et de conseil Ernst & Young, plus particulièrement sur les thématiques de gestion des risques au sens large. J'entends par là cartographie des risques, gestion des crises, plan de continuité d'activité. Je suis accompagné de M. Olivier Vellin, qui travaille sur certaines missions en partenariat avec le cabinet et que je laisse se présenter.
Olivier Vellin, pardon, je suis donc expert sur certains domaines. Notamment, j'avais bâti une méthode que nous avons déployée déjà dans le bassin de la Loire, mais qu'on a aussi déployée sur certaines entreprises de la région parisienne, notamment pour la compagnie d'assurance AXA et pour Natixis, dont les implantations sont le long de la Seine, quai de Charenton et quai d'Austerlitz. Donc, je suis aussi auteur, je suis conférencier, je suis également enseignant dans des masters spécialisés sur la partie risque. J'interviens aussi en Russie, en Iran, enfin dans des endroits un petit peu étranges sur ce genre de choses. Je voulais juste préciser que les premiers retours que nous allons vous présenter en quelques mots fait suite en partie au rapport de l'OCDE 2010 auquel avait participé l'établissement public Loire, qui avait positionné l'inondation de la Loire comme le quatrième plus grand risque en France.
Donc, nous intervenons aujourd'hui, suite à l'invitation de l'EP Loire, que nous remercions pour cela, pour vous présenter un retour d'expérience suite à des missions d'accompagnement dans la mise en place de plans de continuité d'activité au sein de collectivités le long du bassin de la Loire. Donc, un petit rappel déjà du contexte. Donc, effectivement, le bassin de la Loire, donc impacté par les inondations et suite à différentes démarches, donc le plan Loire 4, 2014-2020 et le POI FEDER, effectivement, l'établissement public Loire a décidé de mettre en place une initiative pour accompagner les collectivités, certaines collectivités, dans la mise en place de plans de continuité d'activité inondation. Ce qui en a résulté par deux missions, une en 2013-2014 avec 10 collectivités volontaires et une en cours à l'heure actuelle avec 10 autres collectivités. Au niveau du contexte du projet, il s'est articulé en deux lots. Un premier lot réalisé par un bureau d'études qui a consisté à cartographier les zones inondables avec différents scénarios de crue et la réalisation d'un SIG pour mettre à disposition des collectivités locales. Donc le premier lot réalisé donc par un cabinet et ensuite le deuxième lot sur lequel nous sommes intervenus pour identifier avec les collectivités leurs activités critiques, leurs ressources critiques en termes de bâtiments, matériels, mais également humaines, et les aider à construire donc leur plan de continuité d'activité, mais aussi toute la partie gestion de crise, communication de crise et bien sûr gouvernance de crise. Donc voilà un peu comment se sont déroulées les missions en 2013-2014 et cette année en 2017, c'est le même schéma. Donc là, vous avez la liste d'un certain nombre de collectivités, donc en 2014 et en 2017. Donc il y a différents types, hein, ça va de la petite école jusqu'à des directions territoriales ou des actions sociales ou bien des réseaux de transport dans certaines villes, grandes villes comme Nantes et également la gestion des déchets. Donc il y a voilà, tout type de collectivités pour tout type d'activité.
Un un service critique a été choisi à chaque fois par la collectivité pour que le plan de continuité d'activité soit déroulé sur ce service critique, à charge pour la collectivité d'accroître ensuite de cela le même travail sur d'autres services.
Donc un rappel vraiment très bref pour vous expliquer comment nous procédons avec les collectivités. Donc nous présentons la démarche d'un plan de continuité d'activité parce qu'effectivement pour certaines d'entre elles la démarche est nouvelle. Certaines sont plus matures, mais effectivement nous procédons toujours à un rappel explicatif donc pour leur expliquer ce que c'est un plan de continuité d'activité et la démarche que nous allons développer avec elles. Qui consiste en quatre phases, donc une première phase d'analyse et de quantification des vulnérabilités, une deuxième phase dans laquelle nous travaillons sur les objectifs et l'architecture du plan de continuité d'activité, ce qui correspond aux solutions techniques pour maintenir cette activité, une troisième phase où nous rédigeons la documentation, les outils nécessaires à une bonne continuité d'activité. Et enfin, la dernière partie, un test, une simulation de crise avec ces collectivités pour vérifier que l'ensemble de la démarche fonctionne et que les outils, les documents sont clairs et bien appropriés par les collectivités. Donc, voilà ce qui est résumé ici. Donc, une première étape, détermination des activités critiques et les impacts de l'inondation sur ces activités critiques. Une deuxième étape, proposition de solutions pour maintenir les activités critiques identifiées. La documentation opérationnelle donc, qui correspond justement à ces solutions et la mise en place de tests, de simulations de crise. Voilà un peu la méthodologie employée. Et ce que nous vous proposons maintenant, c'est de voir phase par phase ce qu'en ont pensé les collectivités et un petit peu leurs difficultés et ce qu'elles trouvent également aussi intéressant suite à cette démarche. Donc, lorsque l'on s'attarde sur l'analyse et l'identification des activités critiques pour une collectivité, en fait, ce qu'elles apprécient tout particulièrement, c'est que ça permet, au sein même d'une collectivité, entre services, de se parler et de mettre en commun, effectivement, leurs expériences et de s'apercevoir que certaines ressources sont communes à différents services et également que cette gestion de la crise, cette gestion de l'inondation se fait en commun. Et on est toujours assez surpris, nous, de voir qu'effectivement, certains services d'une même collectivité ne se parlent pas forcément. Et effectivement, ce sujet, plan de continuité inondation, est fédérateur et permet effectivement aux différents services de se parler entre eux. Dans la mesure où on se concentre sur les activités prioritaires, ça permet aussi également de rationaliser les activités, de supprimer les activités non prioritaires et évidemment d'être un vecteur d'économie. Donc ça permet finalement d'améliorer le fonctionnement, au jour le jour, des collectivités. Parce qu'effectivement, elles réfléchissent à leur fonctionnement, à ce qui est vraiment important pour elles, ce qui est utile pour elles. Et effectivement, à l'issue de la démarche, elles nous disent « Ah, mais écoutez, ça nous a permis également de repenser notre fonctionnement en temps normal, sans forcément en temps de crise. » Mais voilà, d'avoir réfléchi à ce qui est vraiment important pour elles, ce qui est prioritaire en termes de service au public, ça permet aussi une amélioration finalement de leur fonctionnement. Ce qu'elles apprécient aussi, c'est qu'effectivement, comme disait M. Velin, elles ont identifié une activité, un service, un équipement prioritaire au départ. Et la première année, ça a vocation à être une sorte de pilote. Parce qu'effectivement, nous allons dérouler avec elles l'ensemble de la méthode, donc de l'identification des ressources jusqu'au test. Et ensuite, elles peuvent, elles, s'approprier la démarche et la déployer sur d'autres services. Et ce fonctionnement progressif, pas à pas, est apprécié et que nous encourageons aussi parce que dans un certain nombre de cas, si le périmètre initial est important, les collectivités peuvent se retrouver un petit peu perdues au départ devant l'ampleur de la tâche, effectivement, d'identifier toutes leurs ressources. C'est un peu compliqué. Donc, le plan de continuité d'activité structuré leur permet effectivement un déploiement progressif sur 1, 2, 3 ans et une mise à jour régulière. Donc ça, c'est quelque chose qu'elles nous font remonter et qu'elles apprécient. Donc vous avez également quelques livrables un peu petits sur la méthodologie. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Donc ça, c'est sur la première phase, lorsque l'on identifie les activités critiques et les impacts associés. Dans la deuxième phase, quand on commence à réfléchir aux solutions pour maintenir cette activité, est-ce que l'on délocalise l'activité, est-ce que l'on priorise telle activité par rapport à une autre, eh bien, elles prennent conscience, de l'importance de la gouvernance de crise. Parce qu'effectivement, quand il faut décider quelle activité est prioritaire par rapport à une autre, et concrètement, comment on va maintenir ces activités, elles prennent bien conscience qu'effectivement, il faut que la réflexion soit globale au niveau de la collectivité et même des intercommunalités et effectivement des partenariats qui peut y avoir. Donc ça, voilà, au niveau, certaines collectivités sont matures et connaissent déjà ces sujets et y ont déjà réfléchi. Pour d'autres plus petites, et c'est tout l'intérêt de la démarche Opéloire, c'est de proposer une démarche comme celle-ci à des collectivités de taille modeste, eh bien, elles prennent conscience de ça, du besoin de réflexion globale et de la prise en compte du problème à une échelle globale.
Le dossier de gouvernance de crise que nous remettons n'a pas pour vocation à s'occuper que des inondations. C'est un dossier de gouvernance de crise globale qui définit les rôles et responsabilités des différents intervenants à l'échelon de la collectivité face à un certain risque. Et on peut très bien, à l'issue d'une réunion de crise, dans le cadre de cette gouvernance, activer un plan communal de sauvegarde, un plan de secours spécialisé, notamment contre un risque chimique, au hasard, contre d'autres dispositifs. Simplement, on s'est rendu compte que beaucoup de collectivités n'avaient aucun plan de gouvernance globale. De la même façon, aucun plan de communication de crise prédéfini pour un certain nombre de choses avec des messages pré-standardisés, notamment, par exemple, pour alerter les préfectures et les populations, ce qui fait qu'on rentre dans un facteur qui est le facteur improvisé. Or, une mauvaise communication de crise, c'est beaucoup plus de dégâts que souvent la crise elle-même.
Voilà, donc comme disait M. Velin, effectivement, aussi une prise de conscience de l'importance des autres plans qu'il peut y avoir en place, les PCS, donc les PCA, d'autres types de plans, et également l'importance de savoir quand déclencher les solutions, quand déclencher une délocalisation, quand déclencher une mobilisation de moyens supplémentaires. Et effectivement, quand on leur explique effectivement qu'à un moment, il va falloir dire l'école, effectivement, on la ferme et on envisage de continuer l'enseignement dans un autre lieu, effectivement, il y a une décision à prendre à un moment et elles ont besoin d'indicateurs pour cela. Et effectivement, les seuils de déclenchement que l'on peut retrouver dans certaines villes assez facilement, on en a entendu parler ce matin sur l'historique, ça c'est très utile. L'une des difficultés, c'est quand il n'y a plus la mémoire des événements. On en a également discuté ce matin. Et là, elle se retrouve avec plus de difficultés pour se décider quand lancer le PCA inondation.
Nous avons parlé ce matin du déversoir de la Bouillie. La question s'est posée quand on a traité le Conseil général à la fois et la ville au niveau de Blois. La question était à quel moment déclenche-t-on l'évacuation de la partie qui est inondable ? Sachant que dans cette partie inondable, il y a des choses qui sont curieusement très complexes à évacuer, comme un parking souterrain. Ça prend des heures, pour ne pas dire 1 à 2 jours minimum pour évacuer un parking souterrain. Donc rien que ce genre de choses, à l'échelon de la collectivité, quand ça a été traité, on s'est rendu compte de la difficulté. Et je vous rappelle aussi un point clé, c'est que les villes sont coupées. À l'échelon d'une collectivité comme Blois, on est coupé en 3 morceaux. Puisqu'en fait, on ne peut plus franchir la rivière. Donc, on doit avoir une capacité de résilience sur chacune des rives. C'est ce que nous avons fait aussi avec Nantes Métropole au niveau de la gestion des déchets. On a rendu autonomes les deux côtés de la rivière à ce niveau-là, grâce aux travaux faits avec Nantes Métropole dans la première initiative.
En continuant la démarche, effectivement, nous arrivons à la documentation opérationnelle. Donc, c'est la rédaction d'outils, de plans, de continuité d'activité, de communication de crise et de gouvernance de crise. Et cette approche structurée est positive pour les collectivités, puisque, effectivement, elles apprécient que ce soit structuré, pour ensuite pouvoir donc se l'approprier plus facilement, j'en ai déjà parlé, et ensuite le déployer au sein de leur démarche. d'avoir quelque chose de cadré avec une vue globale, c'est quelque chose qui leur permet un déploiement progressif. Et effectivement, c'est positif pour elles parce qu'elles se rendent bien compte que tout faire sur quelques mois, en une année, ce n'est pas possible pour certaines collectivités. C'est trop complexe, le périmètre est trop important. Et d'avoir une démarche progressive, une fois encore, c'est quelque chose qui leur convient tout à fait.
Dans cette initiative, il reste un quatrième plan qui est forcément à la charge de la collectivité. C'est le plan de mise en sécurité. Si bâtardeau il doit y avoir, c'est la collectivité qui décidera de les mettre en place. Nous n'allons pas établir le plan de tous les bâtardeaux potentiels ou de tout le barriérage des routes qu'il faudrait faire. Ça, c'est bel et bien du ressort de la collectivité. Donc il y a un quatrième plan qui est la mise en sécurité des infrastructures et des personnes.
La dernière partie donc, de la méthodologie que nous suivons pour le plan de continuité d'activité consiste en un exercice de crise avec les collectivités pour tester l'ensemble de la démarche. Et là, c'est quelque chose qu'elles apprécient tout particulièrement parce que c'est vraiment l'aspect concret de la crise. Ça leur permet de vérifier ce qui a été mis en place. Ça leur permet d'impliquer aussi donc les usagers ou certains agents aussi. Parce qu'effectivement, parfois, le risque d'inondation n'est pas connu ou n'est pas jugé important. Et c'est à l'occasion de ces exercices de crise où on leur fait comprendre qu'effectivement, le bâtiment peut être à sec, mais sans électricité, eh bien, ça va devenir rapidement une crise. Donc ça, c'est quelque chose qu'elles apprécient parce que c'est vivant. Ça permet de former, d'impliquer les agents et la collectivité d'une manière générale.
Alors, chaque scénario que nous bâtissons contient entre 15 et 25 simulations péripéties par heure. Donc, nous décisons le contenu. Donc en fait, il y a une réception de messages qui doit être traitée à tout moment. Mais par contre, ce que nous avons aussi constaté, c'est que à l'époque, les conseils généraux, maintenant les conseils régionaux et les villes n'ont pas tendance à travailler entre eux. Ils ne se connaissent quelquefois même pas, mais bien qu'étant à 200 mètres les uns des autres en ville. Nous avons fait travailler le Conseil général du Cher avec la ville de Bourges. Nous avons fait la même chose à l'échelon de Blois. Et en fait, l'idée, ça a bel été bien de les faire cohabiter, j'ai pu dire, sur un risque. Et pour cela, par exemple, nous avons créé un accident avec un produit toxique en limite entre la zone gendarmerie, la zone police, la zone mairie, la zone conseil général, qui a amené tellement de difficultés de gestion qu'on a eu un empoisonnement du captage d'eau potable qui est à proximité, qui a d'ailleurs été complètement oublié par les intervenants de la collectivité quand ils ont dû le traiter. Ce qui signifie qu'il y a bien un interfaçage entre un certain nombre de forces d'intervention qui n'est pas vu. Les pompiers de la ville, les pompiers extérieurs, la zone police, la zone gendarmerie, tout ceci est dans le domaine d'un certain, comment dirais-je, le terme flou est impropre, chacun connaît ses responsabilités et son travail. Mais c'est la jonction entre les deux qui s'avère parfois difficile.
Et c'est à l'occasion donc, de ces exercices, effectivement, qu'on peut prendre conscience de ces interfaces, et c'est quelque chose aussi que certaines collectivités découvrent lors de l'exercice. D'autres ont déjà anticipé, ils sont déjà matures, mais pour certaines, c'est une découverte et quelque chose qu'elles retiennent et sur lesquelles ensuite elles travaillent.
Je vous incite à revenir vers des personnes comme M. Michel Madinier, qui est conseil régional d'Indre-et-Loire, qui vous donnera tout son retour, puisqu'en fait, il nous a même dit à la fin, on ne pensait pas que vous y arriveriez.
Voilà pour notre retour d'expérience sur les missions passées et en cours sur les plans de continuité d'activité au sein de collectivités. Merci.
Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions, madame ?
Ce n'est pas vraiment une question parce que du coup, c'est juste pour ajouter que, comme il disait, en fait, donc Perrine Thomas de l'établissement public Loire, je suis chargée de mission qui suit cette mission donc des PCA. Et du coup, c'est la collectivité de Blois qui a vécu l'inondation là au mois de juin 2016 qui n'a pas vraiment réellement déclenché son PCA parce que quand on fait un tel document, comme les communes, quand elles ont des PCS, il est très difficile de choisir le moment où on se dit c'est une situation où je dois déclencher ce document-là, tellement ce document, elles ne l'ont jamais déclenché avant et c'est difficile de le mettre en place. mais elles avaient donc dans leur travail su que la Loire couperait leur territoire en deux. Donc elles avaient travaillé sur la partie déchets avec cette idée de la Loire est coupée en deux, il faut des camions de chaque côté. Mais elles se sont dit, vu le petit événement qu'on vit, pour les déchets ce n'est pas nécessaire. Par contre, du coup, il y a eu d'autres services comme l'éducation pour les enfants, etc. Le personnel scolaire, parce qu'il fallait quand même accueillir les enfants toujours, même si les professeurs ne seraient pas là pour assurer les cours. Et du coup, elles ont réparti leurs agents de chaque côté de la rive pour assurer pendant les trois jours l'accueil des enfants. Même si on ne déclenche pas le plan, on a une certaine responsabilité. C'est la même chose pour les PCS que les PCA. Tout le monde évolue en mettant les choses en place. On ne fait pas des super documents le premier jour. C'est sûrement pas quand quelqu'un vous donne un document qu'il va être opérationnel. Quand les gens se l'approprient, et là on peut voir qu'ils se l'approprient parce qu'on l'accompagne.
Rappelons aussi que l'établissement public Loire, pour son service barrage, a fait avec nous son propre plan de collectif de gouvernance de crise, de communication et de continuité d'activité. Donc ils savent de quoi ils parlent s'ils l'ont fait avec nous.
Oui.
Bonjour, Yann Rayenès de l'établissement public Seine-Grand-Lac. Moi, je voulais vous poser deux questions. Est-ce que les gens font suffisamment la distinction entre PCA et PCS? Et puis, effectivement, est-ce que vous avez beaucoup parlé du pendant la période de l'eau. La continuité d'activité se joue beaucoup, bien sûr, sur la reprise d'activité. Est-ce que votre accompagnement va aussi dans des démarches de...
Retour à la normale.
De savoir du retour à la normale. Par exemple, le cas d'une commune qui a plusieurs écoles touchées, dans quel ordre elle va s'occuper de remettre en état chacun des bâtiments, avec des stratégies, par exemple, de s'occuper de deux écoles et de mettre de côté la troisième, ou de délocaliser la troisième. Voilà, ce genre de stratégies qui sont plus sur l'après, mais qui peuvent se penser à froid.
Alors, c'est une chose que nous avons principalement vue, notamment avec Nicolas Viard, à l'échelon de la ville d'Olivet, qui n'est pas très loin, puisque justement, on était sur un cas d'école. Et l'étude sur le retour à la normale a amené à une absolue certitude que le bâtiment ne pourrait plus être utilisé et que donc on s'est obligé de venir sur des constructions temporaires en Algeco le temps de refaire quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, le retour à la normale se bâtit déjà comme un projet. Pendant la période, il y a des gens qui doivent y réfléchir pour savoir comment revenir. À l'échelon de la ville de Blois, c'est la même chose, puisqu'en fait, on savait qu'il y a une station d'épuration en zone inondable. Une fois qu'on a démonté les pompes et laissé passer l'eau, on est arrivé sur la conclusion qu'on ne pouvait pas amener les gens à revenir tant que la station d'épuration ne refonctionnait pas. Or, cela peut prendre des semaines si on n'a pas les pièces. Il y a du travail à faire ensuite de ça pour tester la station, pour la remettre en action, et ensuite seulement les personnes doivent venir. Donc il y a un effort de communication nécessaire, et puis aussi d'être prêt très vite à remettre en route cette station d'épuration pour... s'inscrire dans une politique où on ne va pas polluer la totalité de la rivière derrière. Donc, vous voyez, le point va jusqu'à de quelle façon ça va redémarrer. Alors après ça, bien sûr, la décision d'avoir ou pas des pièces, c'est en dehors de moi.
Oui, c'est d'autres questions, Omar. Oui, allez. Oui, d'accord. Allez. Et après... Non.
Vous avez évoqué des activités et des risques que vous preniez en compte dans votre analyse. Est-ce que vous prenez aussi en compte d'autres activités, comme par exemple l'isolation des bâtiments qui varie beaucoup, enfin qui est organisée plus ou moins par les communautés, dont l'État, et qui varie beaucoup compte tenu de l'âge des bâtiments. Donc est-ce que vous prenez en compte ce facteur-là, comme par exemple, par rapport aux autres critères que vous invoquez, pour pouvoir établir une sorte de zonage du territoire qui vous permet de dire, bon, ben là, il faut faire telle chose, là, il faut faire telle chose. Est-ce que cette analyse d'isolation par rapport aux demandes énergétiques, vous la prenez en compte et comme d'autres éventuellement qui peuvent aussi intervenir, etc. Je vous pose la question parce que moi j'ai interrogé une quinzaine de municipalités pour savoir si elles avaient un découpage de leur territoire par tranche d'habitat et donc période auxquelles ces habitats avaient été construits. Aucune n'a été capable de me répondre. Alors je vous pose la question.
Alors au niveau Au niveau des analyses de risque, en fait, elles sont faites principalement par la collectivité dans la plupart des cas. Ce que nous intégrons, en revanche, et qui n'a rien à voir avec la rivière, c'est les remontées de nappes phréatiques avec éventuellement inondation des sous-sols, ce qui signifie arrêt de l'énergie électrique, arrêt des communications, et éventuellement fragilisation de l'infrastructure qui amènera après à avoir soit de la relocalisation, soit de la démolition d'un certain nombre de choses. L'analyse de risque est faite par, dans le cas présent, a été faite par le cabinet BRL en amont. Nous récupérons simplement le résultat, mais nous intégrons le phénomène qu'on puisse avoir des inondations de sous-sol. Et si, s'il s'agit d'inondations sanitaires, notamment débordements d'égouts, on va avoir des zones insalubres qui supposeront, pour répondre à la question de monsieur, au retour à la normale, d'avoir des visites des services sanitaires pour savoir si oui ou non on peut revenir dans le bâtiment. Éventuellement des services de la ville. Je vous rappelle que sur Prague, il y a quand même beaucoup de bâtiments, même historiques, qu'on a dû démolir, compte tenu de la fragilisation des bâtiments eux-mêmes par le passage de l'eau, mais surtout par les difficultés de sous-sol.
Puisque vous évoquez cette question, il y a une année à peu près, des inondations en Beauce, qui n'ont rien à voir avec la Loire, mais qui ont à voir avec le réseau karstique, les dépressions topographiques, elles restent. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il y a des mesures qui sont prises pour prévenir ce genre d'inondation qui risque de se produire, puisque c'est lié uniquement à la distribution et à la densité de la pluviométrie?
Alors ça pourrait être pris en charge lorsque, sur d'autres études, par exemple, je travaille aussi sur des usines et des entreprises comme ça, nous intégrons ce genre de choses, nous intégrons la fragilité des sous-sols, nous intégrons également la pluviométrie qui fait qu'il tombe la même quantité de pluie, mais en beaucoup moins de temps qu'auparavant. Et puis, par exemple, si l'usine de PSA à Charleville est directement soumise à un certain nombre d'aléas de ce type-là, nous le prenons en charge lorsque nous faisons l'étude. Oui, mais très souvent, on essaye déjà de voir qu'est-ce qui a été établi au niveau de la... Il y a des plans qu'on trouve région par région, ville par ville, sur la fragilisation et les risques qui peuvent être émanants.
Merci. Non, s'il vous plaît. Dernière intervention.
Question. Métropole, puisque c'est une activité que vous développez depuis plusieurs années et auprès de nombreux établissements, donc j'imagine qu'il y a déjà un retour d'expérience. Ces établissements ont pu connaître des aléas. Quels enseignements vous avez tirés sur votre propre méthode par rapport à ce retour d'expérience? En quoi ça a pu infléchir peut-être certaines fonctionnalités ou, voilà.
Alors, quand on travaille, il y a deux choses. Déjà, quand on travaille dans le secteur privé, dans le secteur public, ce n'est pas tout à fait le même principe. Ce qui pilote, par exemple, une banque comme l'établissement Natixis, c'est d'abord et avant tout de poursuivre son activité, sachant que la chute de Natixis, si vraiment on avait une destruction des salles de marché hautes de Natixis, ce serait bien autre chose que Lehman Brothers au niveau mondial. D'accord ? Donc ça, c'est déjà un premier constat, c'est qu'ils ont mis en place et trouvé les budgets pour mettre en place tout un tas de choses. Il faut savoir que chez Natixis, on a fait une opération sur 21 bâtiments qui ont représenté l'équivalent de 14 000 personnes à Mouvoir. Et on a fait ça dans un délai contraint, on nous avait donné 50 jours. Donc on peut le faire, c'est possible. Au niveau des collectivités, c'est différent, parce qu'il y a un autre phénomène, qui a déjà le phénomène qu'il y a des élus. Or, ces élus ont d'autres programmes sur lesquels ils sont engagés, déjà, c'est la première chose. Ils n'ont pas forcément la possibilité de mobiliser énormément de gens sur ce type d'activité. Et puis, il y a malgré tout une dimension territoriale qui fait que si on travaille à l'échelon d'un conseil régional, on va avoir N plus une collectivité à voir, des villes, des villages, etc. Enfin, tout un tissu qui va subir... Déjà, il faudra faire une sensibilisation, il faudra aller plus loin dans un certain nombre de choses. Le premier constat que nous avons eu, c'est, j'allais dire, une relative lenteur, ne prenez pas ça mal... Quand on s'est trouvé face à l'acteur public par rapport à un acteur privé. L'acteur privé va beaucoup plus vite parce que lui, c'est sa rentabilité, c'est-à-dire son existence qui est conditionnée par ça. Voilà, ça c'est une première chose. Pour le reste, on a trouvé des gens qui étaient tout à fait plutôt compétents, plutôt bien sensibilisés, notamment à l'échelon de votre collectivité. Au niveau des services des déchets de bois, par exemple, puisqu'on a parlé de cette ville, c'était aussi ce qui s'est passé. Ça a été très vite. Ils ont trouvé des solutions, parce que les solutions, il faut les trouver, les inventer au fur et à mesure. Salut, Madame Besançon, de notre part, d'ailleurs. Et en fait, il y a bien une appropriation du besoin et une sensibilisation qui se fait. Mais par exemple, on s'est intégré dans d'autres cas. Je terminerai par là. Lorsque nous avons fait notre simulation de crise, on a intégré un problème à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. Et aussitôt, les membres du conseil régional ont dit « Ah !» Service des routes, c'est nous. Il faut qu'on aille mettre tout de suite le barriérage tel que prévu avec la préfecture. Donc aussi sec, on a envoyé un message fictif dans le tissu préfecture qui parlait de très succinctement l'inondation. On en est là. Deuxième point, on applique le barriérage pour la centrale nucléaire et voilà ce qu'on déploie. Du coup, on a fictivement retiré 30% des gens du service des routes puisqu'on avait besoin d'eux au niveau de la centrale. Et 30% du même coup des barrières, etc., etc., selon le plan après. D'accord ? Donc, c'est fait pour s'intégrer. Et là-dessus, on voit qu'il y a des choses qui ont été faites par les collectivités et qui marchent plutôt bien. D'ailleurs, comme l'a souligné d'ailleurs Perrine au niveau de la ville de Blois, par exemple.
Et je dirais globalement qu'effectivement, la définition du périmètre de départ est importante. S'il est trop large, la collectivité va avoir du mal à déployer la démarche. Les agents seront un peu réfractaires aussi parce que trop de choses. Donc, c'est important pour vraiment que, impliquer les personnes et que le projet aboutisse, de le faire, voilà, de bien réfléchir au périmètre de départ et d'y aller progressivement.